Alors, je voulais vous parler de la charité fraternelle et je vais vous offrir le fruit de la pauvre expérience que j'ai dans ce domaine. Cette expérience prise humainement depuis surtout que je suis prêtre, c'est-à-dire je ne parle pas de l'expérience vécue aux études, mais depuis que je suis prêtre et depuis que je suis à Nancy depuis 1953, ça commence à faire bientôt 20 ans. Que ce soit avec mes frères, que ce soit entre les laïcs que je connais. Et là, c'est particulièrement sensible, parce qu'avec mes frères, je peux toujours dire, on n'a pas toujours les mêmes idées, et ça, il n'y a rien à faire, ça, le fait de ne pas avoir les mêmes idées, ça sépare un peu, quoi, c'est un fait. Bien. Les gens que je connais, en principe, me font confiance. Me faisant confiance, ils en principe aussi, ils ont les mêmes idées, tout au moins pour l'essentiel. Par conséquent, le bilan de l'expérience que j'ai pu faire depuis 20 ans dans ce domaine, si je me place à un plan humain, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, il est profondément désespérant. Voilà, il faut regarder les choses en face. Et en conséquence de quoi, je suis convaincu de plus en plus que le problème de la charité fraternelle est avant tout un pont aux ânes, mais quel pont aux ânes, pour l'espérance. Ça, alors là, maintenant, je vois. Que ce soit dans toutes les communautés que j'ai connues, que ce soit la mienne, et puis que ce soit cette petite communauté informelle des laïcs qui me font confiance, et profondément confiance dans une bonne mesure, avec des degrés, des nuances, d'accord. C'est tellement décourageant au point de vue humain que je pense que là, Dieu nous attend au tournant comme une épreuve d'espérance. Et voilà pourquoi, déjà, ça peut nous donner à soupçonner la profondeur de la parole de Jean, si on comprend bien ce « aimez-vous les uns les autres », ça suffit, parce que ça implique une folie dans l'espérance qui n'est pas moins grande que pour espérer notre propre salut et notre propre sainteté. Comment tout ça se noue très fort. Car finalement, la grande difficulté pour notre sanctification, c'est d'aller jusqu'au bout de la confiance. Folle. Hein? Quand on découvre ce qu'on est, c'est profondément désespérant. Quand on découvre ce que sont les autres, c'est profondément désespérant aussi. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes capables d'aller jusqu'au bout de la confiance la plus folle dans le sang du Christ? C'est ça le problème. Et il se complique, j'avoue, dans le cas de la charité fraternelle, parce que on est tenté de dire, oui, mais je ne peux pas faire ça tout seul. Alors que, précisément, si on n'est pas prêt à le faire tout seul, eh bien, on ne le fera pas ensemble. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Hein? Alors. Bien, c'est donc d'abord un problème d'espérance et la même difficulté d'avoir confiance dans un certain nombre de choses que je vais vous dire, dans le cœur des autres, comme d'avoir confiance dans le nôtre, c'est-à-dire dans la possibilité pour les autres d'être sauvés et sanctifiés complètement, possédés et brûlés par l'amour du Christ, tout autant que la possibilité pour nous de l'être. Et dans les deux cas, si on voyait les choses telles qu'elles sont, si tu voyais ta misère, tu perdrais cœur, et bien si tu voyais la misère des autres, car tu ne la vois pas même quand tu t'en plains, et ça nous allons y revenir, tu perdrais cœur aussi. Là, il n'y a qu'un acte de folie absolue dans la confiance qui peut nous en sortir individuellement et aussi par rapport à la charité fraternelle. C'est la même difficulté, en fin de compte. Bien. Deuxième chose qui nous manque pour pratiquer la charité fraternelle, la profondeur et le réalisme. Ces deux choses-là vont ensemble. Nous ne comprenons pas que la transparence et la communication trinitaire que Dieu veut établir entre nous se situent dans les abysses, ce qu'on appelle les abysses. Il y a les fonds sous-marins. Bon, enfin, ça, c'est pas visible. Ce n'est normalement pas visible. C'est anormalement, accidentellement, parfois visible. C'est ce que j'ai appelé la Pentecôte. Ça vient quand ça vient. Mais la plupart du temps, c'est un objet de foi. Alors, cet objet de foi est égal zéro si on ne vit pas dans les profondeurs. Si on vit dans les profondeurs, d'où l'oraison, tout de même. Hein? bien cet objet de foi devient vivant en nous.